Donc aujourd'hui le titre c'est de l'embolisme à l'agneau de Dieu. Donc l'embolisme, on va expliquer ce que c'est. L'agneau de Dieu, nous connaissons davantage. Voilà, donc c'est une petite partie de la messe. Et puis la prochaine fois, donc dans 15 jours, nous ferons la communion et l'envoi. Et nous aurons terminé nos 12 séances sur la messe. Alors l'embolisme, c'est quoi? Je lis le texte, texte numéro 1. Donc le plan, il est simple, hein, on suit petit à petit les choses et tout est marqué sur la feuille. Donc c'est vraiment bien fait. Alors, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le mot embolisme, littéralement, signifie intercalation. Embolisme vient d'embolismo, qui vient de ambalein, mettre dans ou placer entre. Hein, l'embolisme, c'est un petit texte qui est placé entre. Donc il est placé entre quoi? Entre le Notre Père et le rite de la paix. Hein, voilà. De ambalein, mettre dans ou placer entre. Hein. On a terminé le Notre Père hein, par « délivre-nous du mal hein. ». Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça va, Notre Père, la fin, vous l'avez en tête. Et là, du coup, le prêtre continue. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. » On voit bien qu'il y a un lien entre la fin du Notre Père et cette nouvelle partie. Bon. Donc vraiment, le thème aujourd'hui, il faudrait que je trouve un titre, parce que c'est pas très accrocheur comme titre, il faudrait que je trouve un titre autour de la paix. On va travailler davantage sur ce thème de la paix à ce moment de la messe. Vous verrez comment le mot de paix revient à plusieurs reprises. Alors, cette prière qu'on vient de lire dans l'encadré remonte au 5e siècle. Donc, elle développe, amplifie la dernière demande du Notre Père. Elle a été composée par l'Église de Rome au temps où elle était en proie aux invasions barbares. C'est une prière, comme vous le remarquez, de supplication instante pour faire front à l'adversité. Hein? Donne la paix à notre temps. Hein? Que Dieu donne la paix à notre temps. Donc on demande cette paix, cette sécurité face à tout ce qui pourrait nous troubler, troubler notre paix. Il y a deux choses qui peuvent troubler notre paix. Hein? Je lis le texte qu'on vient de lire. Libère-nous du péché. Ah oui, le péché, ça trouble la paix. Et puis la deuxième chose, c'est rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Donc voilà, hein, l'Église de Rome, au 5e siècle, il y a diverses invasions barbares. Et donc il compose cette prière, et cette prière-là est mise dans la messe. Voilà, donc ces épreuves que nous vivons avant ce qu'on appelle la parousie, pour travailler sur le thème des épreuves avant la parousie, vous pouvez prendre le texte chez vous de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Hein, vous verrez chez vous, 1 Thessaloniciens 5, 3. Alors, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, hein, rassure-nous, ça veut dire plutôt rends-nous fort ou mets-nous en sûreté devant ces épreuves. Rassure-nous, rends-nous fort, hein. Nous avons des épreuves. Hein, alors là, vous voyez, tous les pays persécutés comprennent très bien ce que ça. Enfin, je pense que cette prière, elle est encore plus actuelle pour eux. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Alors, le bonheur que tu promets, c'est davantage la bienheureuse espérance. Vous voyez, le bonheur, c'est pas un bonheur sans contenu. Le texte original, originel, pardon. Le texte originel, donc, où s'enracine cette phrase, nous espérons le bonheur que tu promets, c'est Tite, chapitre 2, verset 13. Je cite, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Donc, quand on dit, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Le bonheur que tu promets, c'est davantage la présence du Christ lui-même, qui à un moment donné va être plus qu'une présence spirituelle intérieure, mais qui va être venu du Christ en ce monde. En ce monde, oui. Voilà. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, ce qu'on appelle la parousie. Hein. En fait, toujours, hein, quand. On l'avait déjà vu avec la formule, hein, nous proclamons ta mort, Seigneur, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Pourquoi nous célébrons la messe? Parce qu'on proclame ta mort, c'est-à-dire qu'on la rend présent. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous communions au Christ mort et ressuscité. Et nous attendons ta bienheureuse, et nous attendons ta venue dans la gloire. En fait, on célèbre la messe parce que tu n'es pas encore là. Et quand tu seras là, il n'y aura plus besoin de célébrer la messe. Donc on a, en fait, c'est un peu comme on dit, l'Eucharistie, c'est le gage de la vie éternelle. Donc vous voyez, quand on dit, nous espérons le bonheur que tu promets, ça veut dire, on espère que tu viennes, et on veut cette présence est toi-même, et on veut l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous avez beaucoup de choses, hein, dans la messe qui reviennent. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, voilà, donne-nous la paix, etc. Agneau de Dieu, voilà, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, on l'a déjà dans Gloria. Donc là, les choses reviennent et sont retraduites de différentes manières. Bon, voilà pour ce qu'on appelle l'embolisme. Alors ensuite, nous passons à la doxologie. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la doxologie, qu'est-ce qu'elle signifie? Je préfère vous donner le texte du catéchisme, donc le texte numéro 2 qui l'explique plutôt que de bavarder. Donc je lis ceci. La doxologie finale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance, reprend par inclusion les trois premières demandes à notre Père. La glorification de son nom, la venue de son règne et la puissance de sa volonté salvifique. Trois premières demandes du Notre Père. Mais cette reprise est alors sous forme d'adoration et d'action de grâce, comme dans la liturgie céleste. Le prince de ce monde s'était attribué mensongèrement ces trois titres de royauté, de puissance et de gloire. Il fait référence aux tentations dans le désert. Le Christ, le Seigneur, les restitue à son Père et notre Père, jusqu'à ce qu'il lui remette le royaume, quand sera définitivement consommé le mystère du salut et que Dieu sera tout en tous. Donc c'est intéressant, il faut méditer là-dessus. Voilà, nous redisons. En fait, nous allons nous redisons, ben, c'est à toi, Seigneur, qui appartient toute chose, qui appartient ce monde. Voilà, enfin bon, je ne vais pas paraphraser. On redit, voilà, hein, sous forme d'adoration, les trois demandes du Notre Père, les trois premières. Et c'est aussi, d'une certaine manière, aussi une protestation, une confession de foi. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours le problème du peuple d'Israël qui est toujours à adorer d'autres dieux. Non, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est toi notre vrai Dieu. Donc, voyez, c'est pas simplement une simple louange, mais aussi une protestation de foi. Oui, c'est toi notre Dieu. Un petit peu comme la sœur de Moïse après le passage de la mer. qui dit vraiment, le Seigneur règne à tout jamais. Exode chapitre 15, verset 16. Voilà. Voyez donc, en fait, quand on voit l'embolisme et la doxologie, hein, les deux disent en fait la puissance, la royauté du Christ qui est là dans notre monde, dans notre vie. Hein, on voit bien, hein, les demandes du Notre Père, elles sont là très en lien avec notre vie, parce que pour notre vie, nous avons sept choses à demander. Le Notre Père, c'est pas tellement pour la vie après la mort. Hein. C'est vraiment la prière du chrétien sur la terre. Hein. Pardonne-nous nos offenses. Quand on est au ciel, on est pardonné. Hein. Donc, il n'y a plus besoin de dire le Notre Père. Bon. Ce Notre Père, vous voyez, il est amplifié par l'embolisme, par la doxologie. Et donc, on demande cette royauté. Hein, nous sommes à la fin de la messe, comme voyez, la fin de l'année liturgique exprime aussi cette royauté, puisque la dernière fête de l'année liturgique, c'est le Christ-Roi. Il y a comme un parallèle entre la fin de la messe et la fin de l'année liturgique. Voilà. Bon. Alors ensuite, nous continuons avec le rite de la paix. Alors, je vais le lire en détail. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Alors, c'est intéressant parce que dans ce rite de la paix, c'est là une des rares prières qui est adressée au Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres. Je vous signale que toute la messe est adressée au Père. Le Christ, donc, avec l'Église, face au Père, est un unique priant. Hein, le Christ et l'Église, ensemble, sont face au Père. Ici, le prêtre, au moment de la communion, prend du recul par rapport au Christ, pour mieux le voir, lui dire son amour. Hein, Seigneur Jésus-Christ, je te regarde, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix. Hein, tu l'as dit au moment de ta résurrection, tu l'as dit aussi au moment des grands discours, au chapitre 16 de Saint Jean. Voilà. Hein, alors conduis-la, voilà. Conduis ton Église vers l'unité parfaite. Donc c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment très en lien avec le chapitre 17 de Saint Jean, tout ça, en fait. Voilà. Donne cette paix. Vous savez que la première chose que fait Jésus, hein, enfin vous l'avez en tête, quand il apparaît ressuscité, la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne la paix. Vous voyez, il ne revient pas du tout sur l'offense, il ne revient pas sur le fait que les disciples ont lâché. Et voilà, il rentre au Cénacle et il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est la salutation que l'évêque reprend au début de la messe, d'ailleurs. Alors, il y a cette formule « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église ». Donc, « Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église », c'est-à-dire, qui est-ce qu'il y a dans ton Église? Elle est où la foi dans l'Église? On peut penser à la Vierge Marie. Hein. Pourquoi l'Église est sainte? On dit souvent, tiens, l'Église est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis pécheur. Oui, mais l'Église, dans l'Église, il y a la Vierge Marie qui est sainte. C'est pour ça que l'Église est sainte. Donc, ne me regarde pas en tant que je suis seul devant toi, mais regarde-moi en tant que je suis dans l'Église. Et dans cette Église, il y a une foi parfaite, un oui parfait, hein, qui est celui de la Vierge Marie. Elle est celle qui a dit oui quand tu es venu te présenter à elle. Voyez, ça c'est tout le thème, en quelque sorte, des indulgences. On n'en parle pas beaucoup. Regarde la foi de ton Église, ça veut dire regarde tous les trésors dans ton Église. Et aussi, par cette Église, Eh bien, que la paix arrive dans le monde. La paix, elle arrive par le Christ. Mais vous savez que le Christ ne veut rien faire sans son Église. Elle est son corps. Et donc, vous voyez, quand on demande, par exemple, quand on célèbre une messe pour un défunt, quand on célèbre une messe pour un défunt, on regarde la foi de l'Église. La foi de l'Église, c'est la foi de ceux qui ont offert une messe pour le défunt. Il y a tout ce qu'on appelle les mérites des saints, voilà, il y a tout un trésor de prières. Une petite Thérèse, elle porte des fruits aujourd'hui, et le Seigneur regarde la foi de son Église, regarde la petite Thérèse, regarde tous ces gens-là, et apporte la paix au monde grâce à ces trésors qui sont dans l'Église. À commencer par la Vierge Marie, qu'on a nommée en premier dans le canon, dans la prière de la messe. Voilà. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Donc on regarde à la fois toujours le don du Christ, hein, c'est lui qui donne la paix par sa résurrection, et en même temps cette paix, cette vie du Christ est passée dans les membres, et donc on regarde aussi les membres, hein, le corps du Christ, l'Église, qui elle aussi a un trésor, et ce trésor permet de donner la paix dans ce monde. Et alors du coup, ensuite nous passons aux travaux pratiques et nous avons le geste de la paix. Alors, le geste de la paix, il est ici. J'ai demandé au Christ qu'il donne la paix. Donc je peux maintenant, puisque le Christ, bah, il obéit, hein, vous lui demandez un truc, il le fait. Hein. Je lui demande la paix, il me la donne. Donne la paix à ton Église, donc j'ai la paix dans mon cœur, le Christ est présent sur l'autel, voilà, et du coup nous allons nous transmettre cette paix les uns aux autres. Vous voyez, cette paix, elle vient pas de moi-même, ce n'est pas une sympathie, on se salue pas comme ça en disant bonjour, c'est pas un petit bonjour, c'est la transmission de la paix du Christ, c'est-à-dire de la vie du Christ, en fait. En quelque sorte, comment dire, nous avons vécu cette Eucharistie, depuis le début, on s'est purifié, on a entendu la parole de Dieu, le Christ est venu sur l'autel, du coup, à partir de la présence du Christ sur l'autel, on a enfin pu dire notre Père, qu'avant on ne pouvait pas dire notre Père. Pourquoi on ne pouvait pas dire? Parce qu'on n'était pas réconciliés. Donc, à partir du Christ présent sur l'autel, du sacrifice qui s'est effectué, on peut enfin oser dire notre Père. Et là, on peut enfin se transmettre cette paix. Mais on voit bien que c'est une paix, je veux dire, qui n'est pas donnée au début de la messe, qui est donnée à la fin de la messe, comme si elle était, comme si c'était le fruit de cette présence de Dieu en nous, qui est montée, un peu comme une eau, comme une marée, et qui fait que je transmets à l'autre la présence du Christ qui est en moi. C'est pour ça que
au début de la messe, le prêtre dit que la paix soit avec vous.
Oui, voilà, il le dit, un petit peu comme, vous voyez, d'abord c'est l'évêque d'ailleurs qui le dit, la paix du Seigneur soit avec vous, hein. Donc c'est l'évêque, c'est réservé à l'évêque, sous-entendu l'évêque représentant le Christ, parce que le prêtre qui n'est pas l'évêque, il est prêtre parce qu'il est en dépendance à l'évêque, mais le véritable, c'est du raccourci là. Hein. Le véritable prêtre, c'est l'évêque, si vous préférez. C'est l'évêque qui va dire, Père Paul, vous pouvez confesser, vous ne pouvez pas confesser, par exemple. Le curé d'Ars, pendant un certain temps, il ne pouvait pas confesser. Un prêtre, il doit toujours dépendre d'un évêque. Donc, il célèbre la messe en dépendance de l'évêque. Bon. Donc, le véritable berger, c'est l'évêque. Moi, je suis berger, mais en dépendance de l'évêque. Voilà. Pour ça que l'évêque a sa crosse, signe du véritable berger. C'est pour ça qu'il a l'anneau, signe du véritable époux. Bon, voilà. Donc, oui, quand l'évêque est là, la paix demeure. Hein. C'est toujours pareil, quand vous avez un berger, ça va beaucoup mieux. Une communauté sans berger, on n'est pas très en paix, on n'est pas rassuré. Je pense qu'il y a un lien entre le don de la paix au début de la messe et la présence du berger. C'est comme ça que je l'interprète. Bon, mais là, c'est pas tellement Enfin, on a cette sur pareil, hein, c'est comme la différence entre le baptême et la confirmation. Au baptême, on a l'Esprit Saint, à la confirmation, on a aussi l'Esprit Saint. Et bien, au début de la messe, on a cette paix qui nous est donnée, et à la fin de la messe, on a une paix, mais qui est toujours la même paix, mais qui est en même temps lourde, forte, de toute cette messe vécue ensemble. Et du coup, le diacre va dire, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Il le dit dans la charité du Christ. Ça veut dire, c'est pas donnez-vous la paix. C'est dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donc on voit bien que cette paix, elle est dans la charité du Christ. Bon, voilà. C'est tout quoi. Bon. Donc vous voyez, alors à une époque, enfin, je trouve que le passage, je vous donne le petit texte aussi qui est marqué, hein, Matthieu 5, 23. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Donc apparemment, vous voyez... Le rite de la paix, entre guillemets, était déplacé au premier temps de l'Église, c'est-à-dire avant de présenter nos offrandes, avant d'apporter le pain, le vin, ou je ne sais pas quoi, autre chose. Il y a eu plusieurs dans les offrandes, on l'a vu, hein, il y avait plusieurs manières de faire. C'était idiot, c'était hypocrite de s'approcher devant l'autel et d'avoir des choses contre son frère. Là, en fait, donc c'était un peu l'ancêtre du rite de la paix, si vous voulez ça. Bon. Là, on l'a déplacé. On va d'abord présenter nos offrandes, hein, le pain, le vin, et puis à un moment donné, si on a quelque chose contre son frère, on va aller le voir. Mais on va aller le voir avec la présence du Christ au milieu de nous. Au sens, le pain n'est plus du pain, le vin n'est plus du vin, c'est le Christ lui-même. Donc quand je me présente à mon frère, je me présente dans la charité du Christ. Je me présente avec le Seigneur au milieu de nous, sur l'autel. Vous voyez, ce qui veut dire que, comme reprend la première épître de Saint Jean, puisque Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Tout la première épître de Saint Jean, c'est une réflexion sur le fait que l'amour de Dieu est premier. Si je déplace notre Père à ce moment-là, c'est que je comprends que cette paix, elle m'est d'abord donnée par le Christ qui a donné sa vie présent sur l'autel. Et que donc je ne pourrai pas donner la paix à mon frère si je n'ai pas le Christ en moi, si je n'ai pas la présence du Christ au milieu de nous. Alors, ce qui illustre, pour mieux comprendre ça, le premier baiser de paix, c'est la Vierge Marie. Dans la visitation. C'est pour ça que nous avons cette icône-là aujourd'hui. Voilà le premier rite de la paix. Alors je lis. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein, et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Voyez, alors, et elle continue, « Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Dès que j'ai entendu ta salutation. C'est quoi la salutation? C'est shalom, la paix, bonjour, voilà. Elle a simplement salué comme un baiser de paix. Et à ce moment-là, Élisabeth, entendant cela, en fait, l'enfant en elle, donc Jean-Baptiste, se réveille, tressaille d'allégresse dans son sein, et la mère est inondée du Saint-Esprit. Donc en fait, c'est, vous voyez, Marie en fait, va vers Élisabeth, et quand elle parle, ben, sa parole, elle a un poids immense, elle a une présence immense, parce qu'elle porte en elle le Seigneur. Donc, plus je porte en moi le Seigneur, plus, quand je parle, c'est puissant. Moins je porte en moi le Seigneur, plus je suis dans l'activisme. Et l'activisme, c'est faire des activités sans porter grand-chose. On fait, on s'agite, on organise des manifestations, voilà. Mais oui, mais comme il n'y a pas le Seigneur en moi, en fait, vous savez, moins je suis à l'intérieur, plus je suis à l'extérieur en général, d'ailleurs. Bon, mais enfin, les gens viennent, ils repartent, tout ça, mais enfin, ils n'ont pas vécu d'expérience forte. Par contre, vous voyez, le pape François, par exemple, bon, alors là, c'est un peu extrême, bon, bien sûr, comme exemple, mais il se promène, il fait rien du tout, il salue les gens, et les gens pleurent, ils disent, voilà, ma vie a été transformée quand j'ai vu, je ne sais pas quoi, Jean-Paul II ou le pape François me saluer. Voilà. La manière dont il m'a salué, j'ai compris que Dieu était amour. Bon. Donc, voyez, c'est ça, en fait, cette paix du Christ, c'est un peu cette parole que je donne à l'autre qui est une petite Pentecôte pour l'autre. Un petit peu comme dans la Genèse. Hein. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. L'autre dit la paix, hein, la paix du Christ, et la paix est donnée à l'autre comme comme une petite visitation qui se vit au cœur de la messe. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à saluer les gens. Il y a des gens, ils ne savent pas saluer. Ils ne vous regardent pas dans les yeux, ils regardent à côté, ils font vite fait. Bon. Mais c'est ça qu'il faudrait demander. Tu vois, il faudrait demander, mais écoute, toi qui es à côté de moi, voilà, je te souhaite la paix, je te souhaite... C'est-à-dire la présence du Christ dans ta vie qui fait que toute chose va être simple. Bon. Alors, du coup, je vais faire une petite digression sur la paix en général. Je pense que, alors, il y a un bon livre de Jacques Philippe qui s'appelle Recherche la paix, et pour celui-là, voilà. Bon, je l'ai pas lu, mais enfin, je l'ai lu, mais il y a longtemps. Bon, mais vous pouvez du coup peut-être davantage travailler ce thème de la paix avec ce livre. Mais je vais vous donner quand même cinq petits points pour rester dans la paix, et je vous ai mis les cinq clés qui aident à avoir la paix de Dieu sur votre feuille. J'ai dit d'abord faire la guerre pour avoir la paix. Vous voyez, la paix est le fruit d'actes d'amour, de foi, qu'il engendre en permanence. Pour avoir la paix, il faut faire des actes d'abandon, des actes de foi, des actes d'amour. Je veux dire par là que la paix n'est pas un état naturel. On n'est pas naturellement en paix, en fait. On a des soucis, on a des tas de choses. Voyez, on a des difficultés avec telle ou telle personne, et donc il y a un combat à mener. Et c'est ce que dit l'épître aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Quant au temps et moment, je cite, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Voilà. Donc, vous voyez, on peut très bien être dans une paix extérieure, et tout d'un coup, eh bien, les choses tombent sur nous parce que nous ne sommes pas dans le combat. Nous sommes dans la paix un petit peu comme un Jonas. Jonas, il est dans la paix, mais en fait, il dort. Il dort dans le bateau, en fait, il n'est pas du tout en paix. Il n'a pas compris, ce Jonas, que la paix, c'était en fait le fruit de la guerre. Contre nous-mêmes, contre nos penchants mauvais, etc. Le deuxième point, pour avoir la paix, après faire la guerre, il faut se tenir à distance ou aller en eau profonde. Alors, j'aime bien cette parole du cardinal Journet. J'avais plus de place, donc je ne l'ai pas mise. Je vous l'ai dit. Il disait ceci. Tenez-vous très pacifié et comme au-dessus de votre tâche. Alors, elle ne vous écrasera pas. Et à la maison, plongez-vous dans le silence. Tenez-vous très pacifié et comme au-dessus de votre tâche, alors elle ne vous écrasera pas. Et à la maison, plongez-vous dans le silence. Je pense que celui qui a la paix, c'est celui qui se tient au-dessus de sa tâche. Donc ça, alors, enfin bon, c'est un, tout ça, c'est très intuitif. Hein, bon. Au-dessus de notre tâche, c'est-à-dire que nous n'avons pas à mettre tout notre cœur dans nos activités. Nous mettons notre cœur dans le Seigneur. Vous voyez, la petite Thérèse le disait aussi dans un texte, il faut que je retrouve, bon. Voilà, elle disait, il faut se tenir un peu au-dessus des choses, voilà, au-dessus de la mêlée, un peu comme ça. Voilà, le but, c'est d'être un saint, un prêtre qui mettrait toute sa vie dans la réussite de son ministère, de sa paroisse. C'est pas très saint. Parce que du coup, si ça marche pas bien, il va être déçu et c'est pas bon. Le but de son ministère, c'est d'être, voilà, c'est d'aimer le Seigneur, c'est de rencontrer le Christ. La finalité, c'est la rencontre du Christ au cœur du ministère, mais c'est pas que on réussisse, le méchoui, je sais pas quoi. Bon. Voilà. Tenez-vous au-dessus de votre tâche. Prenez de la distance. Prenez de la distance. Voilà. Et puis, allez en eau profonde. Ce que je disais toujours, hein, toujours dans mon petit 2, soit se tenir en distance, donc prendre de la hauteur, soit descendre en eau profonde. En eau profonde pour trouver la vraie paix. Voilà. La vraie paix. Pas la paix superficielle. La paix en profondeur. Vous voyez, on se rend compte par exemple que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Donc, vous voyez, si je suis à la surface, bah, je dis ça va pas, Dieu n'exauce pas ma prière. Descends en eau profonde. Vous voyez, saint Paul qui dit « J'ai une écharpe dans ma chair. À trois reprises, j'ai supplié le Seigneur pour que ça s'enlève. » Voilà, j'ai prié. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écharpe? Je ne sais pas très bien. Mais voilà. « Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Donc voilà, Paul tout d'un coup prend conscience, il faut qu'il descende en eau profonde. « Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Hein » Elle n'est pas à la surface des choses, ma puissance. Elle est dans la faiblesse. Elle est dans une paix profonde. Voilà, il faut descendre. Le troisième point pour avoir la paix, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Ce que je vous ai mis dans la feuille, chaque fois. Et donc, rechercher la volonté de Dieu, ça veut dire éviter le tiraillement entre deux volontés. Donc ça veut dire, je médite en fait, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas la paix? En fait, vous voyez, je vais m'asseoir, et pourquoi j'ai pas la paix? Par exemple, le fils aîné de la parabole du fils prodigue, il pourrait faire cet examen de conscience. Quand son petit frère revient, il peut s'asseoir. Et il est en colère en fait, il est en colère, bon. Alors, il peut faire son examen de conscience en se disant, mais bon voilà, mon frère revient, pourquoi je ne suis pas en paix? Ben, je suis pas en paix parce que je suis jaloux que mon père, en fait, soit passionné d'amour pour mon petit frère. Ça me met dans la jalousie. Je savais pas que j'étais jaloux, et tout d'un coup, je découvre qu'il y a une jalousie dans mon cœur. Je l'avais jamais vu, et quand mon frère est revenu, ça y est, j'ai découvert. En fait, il a révélé mon péché. Avant, je ne l'avais pas vu. Avant, je pensais que j'étais un bon garçon, qu'il faisait bien les choses. Bon, je n'avais pas beaucoup d'atomes crochés avec mon petit frère, mais enfin, bon, voilà. Mais je n'avais pas vu le péché de jalousie. Et donc, l'absence de paix a révélé en moi ce péché de jalousie. Voilà, Jonas, c'est la même chose, voyez. Il y a la volonté de Dieu, et puis sa propre volonté, et ça n'arrive pas à correspondre. Pourquoi ça ne correspond pas? Parce que c'est un homme, Jonas, qui est dans la peur. Donc en fait, il y a deux volontés qui s'opposent, mais parce qu'il faut que Jonas fasse un saut par rapport à cette peur. Il faut qu'il fasse confiance que Dieu est bon, et que si Dieu lui demande d'aller à Ninive, ce n'est pas pour se perdre, mais c'est pour réussir. Quand Dieu nous invite à quelque chose, quand il nous donne une mission, c'est pour réussir. Donc souvent, voilà, ce tiraillement entre ce que Dieu veut et puis cette volonté très humaine, très, très basique, hein, au sens négatif du terme, fait que nous n'avons pas la paix. Et du coup, le quatrième point, qui est lié au troisième, hein, toujours, le fruit de la paix va être le fruit de l'unité intérieure. Quelqu'un qui est en paix, c'est quelqu'un qui fait l'unité. En fait, l'unité, c'est-à-dire que j'ai pas deux vies. Vous avez par exemple des mères de famille, elles sont, je pense à des mères, ça peut être des pères, j'en sais rien. Bon. Voilà, les enfants sont couchés, ça y est, enfin, je commence ma journée. Voilà. Donc en fait, on commence sa journée, on se dit, ça y est, je commence à... Ou alors, il y a des gens, c'est, bon, vivement le week-end. Quand le week-end arrive, ça y est, enfin. Enfin, je peux me reposer, vivre. Donc en fait, il n'y a pas d'unité entre la semaine et le week-end. C'est le week-end, enfin, je vis. Ou c'est les vacances. Ils sont au boulot, sur pression. Et puis, enfin, ça y est, je vis. Ben, je pense qu'il y a un travail de... Enfin, d'harmonisation qui fait que ben, il est important de vivre même quand on a des enfants et même quand je sais pas, enfin, vous voyez, de trouver cette unité intérieure. Si mon travail c'est toujours l'angoisse tout le temps, bon, je sais que c'est facile, plus facile à dire qu'à faire, mais je peux pas avoir plusieurs vies. Enfin, c'est, vous voyez, il y a peut-être un travail de consentement ou une réforme, ou voyez, tout ce qui est, par exemple, le parcours Zaché, ou toute la réflexion de l'Église par rapport au travail, c'est d'aider les personnes à faire leur unité. Et de dire, mais attendez, vous pouvez rencontrer le Christ aussi dans votre vie concrète. Il n'y a pas que pendant la retraite, à Paray-le-Monial l'été, ou je sais pas où, dans votre monastère, et puis le soir, après 22h, quand tout est terminé. Enfin, le bonheur, il est aussi... dans votre vie en général. Voilà, tout ce qui... Vous voyez, quand les gens, par exemple, vont opposer la contemplation et l'action. Donc non, la contemplation ne s'oppose pas à l'action. Vous pouvez trouver le Seigneur dans votre vie, quoi, réel. Voilà, tous les... Si j'avais plus de temps, je pourrais me donner davantage au Seigneur. Si, ben non, vous pouvez vous donner au Seigneur là, dans votre vie. Le Seigneur, il appelle ses disciples au bord, en fait, dans leur métier. Hein. Il les appelle pas dans une synagogue. Hein. Il les appelle en plein boulot pour montrer comment le lieu du travail, le lieu quotidien, est un lieu où nous rencontrons le Seigneur. Voilà. Et le cinquième point pour trouver la paix, s'en remettre à sa miséricorde. Alors je cite Sœur Faustine, elle disait ceci au numéro 795 du journal, je cite, « Je m'en remets entièrement à son infinie miséricorde et comme un petit enfant, je vis dans la plus grande paix. » Je m'en remets, donc je cite à nouveau, entièrement à son infinie miséricorde et comme un petit enfant, je vis dans la plus grande paix. Voilà, quand nous remettons notre vie dans le pardon, dans la miséricorde, donc nous allons avoir une année pour réfléchir à ce que ça veut dire la miséricorde, eh bien, nous sommes dans la paix. Voilà. C'est toi, Seigneur, ma justice, c'est toi, ma sainteté. Voilà. La miséricorde, c'est le don de Dieu offert à celui qui ne devrait pas le recevoir. Voilà. Vous m'avez percé le côté par votre lance alors que j'étais déjà mort, comme un acte barbare. Et moi, je vous ai ouvert mon cœur pour que des fleuves d'eau vive sortent de mon cœur. Vous avez fait un acte barbare et moi, j'ai fait un acte de miséricorde en vous donnant ces fleuves d'eau vive. Voilà, c'est le mystère du cœur de Jésus que nous fêtons aujourd'hui. Voilà sur la paix. Alors, à ce moment-là, parfois, moi, j'embrasse le calice. Alors, ce rite n'est pas du tout dans le missel, mais il a existé par ailleurs dans l'histoire de l'Église. Donc, je cite, « Le baiser de paix part de l'autel comme un message et un don de Dieu. Le célébrant reçoit la paix en baisant l'autel. » Ça, c'est le sacramentaire de Modène au XIe siècle qui le signale. Donc le prêtre baisait l'autel comme au début de la messe, donc voilà. Ou bien il embrassait le missel ou bien la patène. Ensuite, au XIIIe siècle, je lis, Hugues de Saint-Cher ou Saint-Albert le Grand se prononce pour que le célébrant baise l'hostie. Non, oui, ça c'est un peu plus tard. Voilà. En Angleterre, Richard de Salisbury, au XIIIe siècle, voilà, trouve l'usage de baiser l'hostie peu convenable. Donc on baise le calice, le bord du calice, ou la patène, ou le corporal, ou le crucifix. Voilà, donc il y a tout un historique, avec des traditions, même chez les dominicains, cette tradition est restée. Bon, c'est pas du tout dans le missel, mais je trouve ça un petit peu parlant. Voilà, d'embrasser le calice, je ne le fais pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà, montrant bien par là que le don de la paix vient de l'autel, ne vient pas d'ailleurs. Alors ensuite, nous passons à la fraction du pain. Hein? Le mot de fraction du pain, voilà, numéro 6 dans votre feuille, numéro 4, pardon, dans votre feuille, voilà. La fraction du pain, c'est d'abord un nom de l'Eucharistie, de la messe, que vous avez en acte 2, 42. Ils étaient fidèles à la fraction du pain, à la communion fraternelle. Ce geste de la fraction, de rompre le pain, c'est un geste de convivialité, qui va être le symbole d'un partage fraternel, qui va exprimer une communion. Comme on dit, nous sommes copains. On est copains. C'est-à-dire qu'on partage le même pain. C'est ça. Hein? Nous sommes, voilà. Ceux qui mangent le même pain sont compinces, copains. Un même pain, une même vie habite le corps tout entier. Donc on va signifier en frappant, en brisant cette Eucharistie. Alors c'est encore plus fort chez les sœurs de Bethléem. Quand je vais célébrer chez les sœurs de Bethléem, en général elles ont une grande hostie et cette grande hostie est divisée en, donc dans le nombre de personnes, comme c'est très épais, voilà pour les 20 religieuses qui sont là, ça suffit. Donc vous voyez, elles voient donc cette hostie énorme. Et elle se voit en quelque sorte rassemblée dans cette hostie. Et ensuite, cette hostie va passer dans le corps de chacun. Et donc, elles vont former un seul corps. Elles vont être copains. Voilà. Pain ensemble, partageant le même pain. Vous avez... Prenez le texte numéro 6 au dos de la feuille. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un cœur, qu'un corps, pardon, car tous nous participons à ce pain unique. Voilà. D'accord? Alors, nous pouvons lire ce que dit la présentation du missel romain sur cette fraction du pain, le texte numéro 4 et le texte numéro 5. Donc, je lis avec vous. Texte numéro 4. Le prêtre rompt le pain eucharistique, aidé le cas échéant par le diacre ou un concélébrant. Le geste de la fraction accompli par le Christ à la dernière scène et qui a donné son nom à toute l'action eucharistique à l'âge apostolique signifie que les multiples fidèles, dans la communion à l'unique pain de vie qui est le Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps. La fraction commence après le rite de la paix et se fait avec le respect qui s'impose en évitant de le prolonger sans nécessité ou de lui donner trop d'importance. Voilà. Ça signifie que les multiples fidèles communient à l'unique pain et deviennent un corps. Vous voyez, on devient corps du Christ par étapes. Je deviens corps du Christ parce que ensemble on a demandé pardon au début de la messe. Je deviens corps du Christ parce que ensemble nous avons entendu la même parole. Quand les gens entendent le même discours, ça unifie les gens. Ensuite, je deviens corps du Christ parce que on s'est donné la paix. Donc, vous voyez, les pardons ont été donnés. Du coup, ça y est, on est en lien. Et là, on va devenir corps du Christ parce qu'on va avoir la même vie qui va passer dans les chaque membre. Voilà. Le texte suivant, texte numéro 5, la vérité du signe demande que la matière de la célébration eucharistique apparaisse vraiment comme une nourriture. Il convient donc que le pain eucharistique, tout en étant azyme et confectionné selon la forme traditionnelle, soit tel que le prêtre, à la messe célébrée avec peuple, puisse vraiment rompre l'hostie en plusieurs morceaux et les distribuer au moins à quelques fidèles. Cependant, on n'exclut aucunement les petites hosties quand le nombre des communiants et d'autres motifs pastoraux en exigent l'emploi. Mais le geste de la fraction du pain, qui désignait à lui seul l'Eucharistie à l'âge apostolique, manifestera plus clairement la valeur et l'importance du signe de l'unité de tous en un seul pain, et du signe de la charité, du fait qu'un seul pain est partagé entre frères. Voilà. Bon, en fait, ça redit un petit peu la même chose. Voilà, alors quand saint Paul dit, voyez, parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, donc il faut bien imaginer que dans les religions traditionnelles, au temps de Paul, la nourriture était souvent liée au culte. Par exemple, on prenait des bêtes, et puis on allait les immoler, et puis, alors il y a toute la question de Paul, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, je crois, ou 8, bon, je ne sais plus, avec les idolotites, les viandes immolées aux idoles. Et saint Paul se dit, est-ce qu'on a le droit de manger des viandes qui ont été d'abord immolées aux idoles, etc. Alors saint Paul dit, mais c'est pas très grave, de manière les idoles, elles n'existent pas, mais bon. Enfin bref, il y a toute une discussion. Mais donc, au temps de Paul, ben voilà, il y a des morceaux, donc on va immoler la bête, et puis il y a des parties de la bête qu'on va donner aux idoles, le foie, ça c'est très précieux, le foie. Et puis, il y a d'autres morceaux qu'on va donner à des gens importants. Et puis, il y a des morceaux qui sont moins bons qu'on va donner à d'autres gens. Donc, autour de la nourriture, vous voyez, il y a des cultes qui se font. Vous avez des sacrifices d'holocauste, où là, la bête est totalement brûlée. Des sacrifices de communion. Communion, ça veut dire que la bête est un petit peu immolée aux idoles, mais en même temps, immolée aussi pour qu'on en mange aussi une partie. Voilà, bon. Et là, saint Paul dit, attendez, avec le Christ, on a tous le même morceau. On mange le même pain, il n'y a qu'un seul pain. On n'est pas avec, il n'y a pas différents degrés. C'est comme si, voilà, vous servez un plat et puis vous servez, vous savez, les gens, quand je vais chez eux, ils me disent, mais écoutez, dans la viande, prenez le morceau au milieu. Sous-entendu, prenez pas l'entame, là, vous savez, qui est plus sec, ou le gâteau, là, qui est sur le bord et qui est moelleux. Ouais, parce que je suis l'invité, puis l'autre se sacrifie, ils prennent le gâteau avec le bout plus sec. Bon, mais c'est un peu ça, voilà. C'est un peu le même esprit. Il y a un seul pain, on mange au même endroit, il n'y a pas des degrés, voilà. Tout ça, on arrête, quoi. Hein? On est dans cette communion. Voilà. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont unis. Alors, nous allons rompre le pain et nous allons vivre ensuite ce qu'on appelle la l'immixtion. Alors, oui, j'ai dit. En fait, la fraction du pain, la première chose que je dis là, le grand 1 là, c'est symbole de communion. Et je dis le grand 2, le petit 2, pardon, c'est symbole du sacrifice. Ça va? Sur votre feuille? Vous suivez? Bon. Donc, la deuxième chose, c'est que, en rompant le pain, je signifie aussi le sacrifice. Je signifie aussi la mort du Christ. Alors, je lis le texte de Pie XII dans Mediator Dei, le texte numéro 7. Par le moyen de la transsubstantiation du pain au corps et du vin au sang du Christ, son corps se trouve réellement présent, de même que son sang, et les espèces eucharistiques sous lesquelles il se trouve symbolisent la séparation violente du corps et du sang. Ainsi, le souvenir de sa mort réelle sur le calvaire est renouvelé dans tout sacrifice de l'autel, car la séparation des symboles indique clairement que Jésus-Christ est en état de victime. Alors, vous voyez, il y a l'aspect de victime, il est d'abord dans la séparation du vin et du pain. Alors, plus exactement, du sang et du corps. Quand quelqu'un meurt, eh bien, on va dire, il a perdu son sang. Il n'a plus de sang. Donc la séparation signifie la mort. Et la réunion, l'inverse, quand le prêtre va prendre la parcelle d'hostie et la remettre dans le calice, vous le voyez ce geste? Ça signifie la réunion, c'est-à-dire la vie et la résurrection. C'est un des sens. On va le voir. Ah ben voilà, prenez le texte numéro 8. C'est pas grave, je suis un peu dans le désordre, mais c'est pas gênant. Donc ça, c'est la présentation du missel romain, numéro 83. Le prêtre rompt le pain et met dans le calice une parcelle de l'hostie pour signifier l'unité du corps et du sang du Seigneur dans l'œuvre du salut, c'est-à-dire le corps du Christ Jésus, vivant et glorieux. Donc, nous communions au corps offert de Jésus en sacrifice, séparer le corps, le sang, la mort violente. La séparation du sang et du corps signifie la mort violente. Et la réunion du corps et du sang signifie la résurrection. Jésus est vivant, glorieux, ressuscité. Hein? Voilà les deux aspects.
Hein? On est au pied de la croix.
On est au pied de la croix, mais on est plus qu'au pied de la croix, parce qu'au pied de la croix, il n'y a que la mort. En même temps, enfin, dans la mort, justement, c'est le mystère du cœur ouvert. Il y a ces fleuves d'eau vive qui signifient déjà la résurrection, qui signifient la vie déjà donnée dans la mort. Voilà. Bon, on ne peut pas séparer les mystères du tout, hein, chez Jésus. Mais bon, il y a quand même des. Le temps de la mort, c'est le temps de la mort. Le vendredi saint, c'est le vendredi saint. Le samedi saint, c'est l'absence. Le dimanche, c'est la résurrection. Donc, on sépare un petit peu les choses pour mieux comprendre, mais les choses sont réunies. Bon. Alors, séparation du pain et du vin, et puis la fraction. La fraction signifie aussi en quelque sorte le corps qui se brise. Un petit peu comme Marie, vous voyez, va briser son vase d'albâtre et le parfum se répand dans toute la maison. De la même manière, eh bien, le Christ est brisé et le parfum, sa présence se répand non pas dans toute la maison, mais dans tout le corps. Puisque nous rompons le pain, et par cette rupture, eh bien, c'est le corps du Christ qui peut aller à travers l'Église, prendre place dans le corps de chacun d'entre nous. Briser, être brisé, c'est s'offrir. Donc, vous voyez, au moment de ce pain qui est rompu, j'offre aussi, je m'offre, je me donne encore à nouveau à Dieu. C'est le Christ qui s'offre. Et c'est aussi l'Église qui s'offre. Hein? Je vous ai mis cette petite phrase de saint Augustin. En ce qu'elle offre, c'est elle-même qui s'offre. En ce qu'elle offre, l'Église, elle offre le corps du Christ, c'est aussi elle-même qui s'offre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas séparer Jésus, la tête, de l'Église. On disait, est-ce que c'est vrai ? Dans les photos, on disait que le pape Jean-Paul II, quand il regardait l'hostie, quand il célébrait la messe, il regardait aussi la foule en face. Sous-entendu, il voyait aussi le corps du Christ dans l'assemblée. Mais c'est vrai qu'après la résurrection, vous ne pouvez pas séparer la tête du corps. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Du coup, si le Christ est brisé, hein, comme il est brisé, comme il est transpercé sur la croix, eh bien, l'Église aussi est appelée à être brisée, est appelée aussi à s'offrir. Hein. C'est le Christ et c'est aussi l'Église qui remonte vers son Père. C'est bien pour ça qu'on dit « prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donc c'est le sacrifice de toute l'Église, de chacun d'entre nous aussi. C'est nous tous qui offrons le Seigneur, bien sûr, mais si c'est nous tous qui nous offrons au Père ensemble. Donc sur l'autel, nous avons d'une certaine manière le corps du Christ réel, mais aussi le corps mystique, l'Église. Et c'est bien pour ça que nous avons durant la messe deux épiclèses. L'épiclèse, c'est l'invocation de l'Esprit Saint. Nous l'avons sur le pain et le vin, et nous l'avons aussi sur l'assemblée. Je vous renvoie au cours précédent. Hein? Répands ton esprit sur ton Église, voilà, qu'elle devienne, etc. Alors, voilà pour la fraction du pain. Maintenant, je reviens sur l'immixtion, ce terme, donc, qui signifie cette réunion. L'immixtion a longtemps aussi coexisté avec deux très beaux rites qui sont maintenant abandonnés, qui s'appelaient le fermentum et les sancta. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux rites? Et je trouve ça intéressant de les rappeler. On appelait sancta une parcelle du pain consacré à la précédente messe qui était mêlée au calice. Et cela signifiait l'unité du sacrifice du Christ à travers le temps. Voilà, on gardait une petite parcelle de l'ancienne messe, et puis on mettait dans le calice, et comme ça, on rappelle qu'en fait, il y a eu une seule messe. Voilà. Et voilà, à chaque fois, voilà, il y a toujours... Voilà, tout le monde comprend. Bon. Et puis, le deuxième rite, c'est le rite, ce qu'on appelle du fermentum, là. À Rome, le pape envoyait une parcelle d'hostie consacrée, appelée le fermentum, Hein, fermentum, ça veut dire ferment. Donc, il envoyait cette parcelle d'hostie. Alors, c'était soit le pape, soit il y avait aussi un autre rite avec les évêques, parce que le pape, à un moment donné, il peut plus, donc il y a beaucoup d'évêques autour de lui. Et donc, cette parcelle d'hostie était envoyée aux évêques voisins, et puis aux prêtres de la ville, en signe de charité fraternelle, autour du successeur de Pierre. Voilà. De l'autel de Pierre, eh bien, on envoie une parcelle d'hostie, voilà, un peu partout, pour signifier l'unité du corps. Hein, c'est la même église. Il y a une seule messe à travers le temps et aussi à travers l'espace. Nous formons un seul corps. Alors, on le dit quand je disais tout à l'heure, ce que dit la présentation du missel romain, quand nous rompons le pain, nous nous rappelons de même qu'il n'y a qu'un seul pain, il n'y a qu'un seul corps. Nous sommes unis dans un seul corps, mais nous nous rappelons que ce seul corps, il ne peut pas exister s'il n'a pas sa tête, représentée par l'évêque. Ensuite, nous passons à l'agneau de Dieu, Agnus Dei, numéro 6. L'agneau de Dieu, donc, c'est un chant qui accompagne un rite. La présentation du missel romain au numéro 83 dit que on va répéter autant de fois le chant autant de fois qu'il le faut pour accompagner cette fraction du pain. Souvent, on répète trois fois. Mais quand vous avez des célébrations plus longues ou que le prêtre est parti, je ne sais pas quoi, il est important que celui qui anime les chants se souvienne. Qu'il est bon de... Marc, là, c'est faux, d'ailleurs, ce que je dis, non. Non, c'est plutôt quand vous avez une hostie qui est très, très grande, parce que, voilà, quand elle est très, très grande, si ça prend un certain temps, eh bien, on répète trois fois, quatre fois, cinq fois, on va avoir donc ce chant qui accompagne ce rite. C'est-à-dire que voilà, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, on voit bien le terme agneau égale immolation, égale sacrifice. Et en quelque sorte, le prêtre, en rompant le pain, symbolise en quelque sorte ce sacrifice. Bon. Du coup, vous voyez par exemple des prêtres qui, si on veut être très précis, il y a des prêtres qui aiment bien présenter à la foule une grande hostie. Et puis alors, ils ont présenté l'hostie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et ensuite ils vont rompre à nouveau. Non. Et ils voulaient que l'hostie soit bien vue, mais on ne va pas rompre à nouveau. Le moment où on va rompre accompagne l'agneau de Dieu, ça fait un seul rite. Oui, mais je voulais que les gens voient, mais enfin, on n'est pas dans du théâtre. Voilà, donc c'est important. Vous avez par exemple des chants, le chant d'offertoire, il accompagne la procession des offrandes. Mais une fois que la procession est terminée, on arrête le chant d'offertoire. Vous avez des chants qui accompagnent, comme l'agneau de Dieu, comme le chant d'offertoire. Et puis vous avez des chants qui n'accompagnent pas, qui succèdent. Par exemple, le Kyrie. Kyrie eleison. Voilà. Mais ça, ça accompagne pas, ça succède au je confesse à Dieu. Il faut bien distinguer les deux types de chants. Agneau de Dieu, il est l'agneau. Il est celui qui est égorgé et qui en même temps est debout. C'est toujours le paradoxe. Je vous renvoie à l'Apocalypse au chapitre 5. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça c'est après. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bon. Voilà. Je signale aussi, dernière chose pour la liturgie, que on ne substitue pas un autre chant à l'agneau de Dieu. Parce que dans certaines messes, j'ai entendu, ça se fait plus aujourd'hui, mais la paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus au moment de l'agneau de Dieu. Non, c'est pas possible. Bon. Il faut que j'avance, encore 10 minutes et c'est fini. Ensuite, la prière du prêtre avant la communion. Vous avez donc une prière qui est dite à voix basse. Je vous ai mis les deux prières que peut dire le prêtre. Texte numéro 10. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Alors, cette première prière, elle est pétrie de phrases bibliques. Hein? Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Ça fait référence à quoi? À Saint Pierre qui... Oui, tu es le Fils du Dieu vivant. Hein? Matthieu 16, verset 16. Hein? Voilà, c'est la foi en la divinité de Jésus. Selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Je suis en train de dire que l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de la Trinité tout entière. D'accord? Selon la volonté du Père. Voilà. C'est la volonté du Père que le Christ donne sa vie. Vous savez comment Pierre s'oppose à cette volonté. Et le Christ s'accorde à cette volonté. Avec la coopération du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, si le Christ est offert, c'est avec cette puissance du Saint-Esprit. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Ça fait référence à Hébreux chapitre 9, verset 13. Si en effet du sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse dont on asperge ceux qui sont souillés, si ça les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Voilà, c'est ce sang qui va nous purifier. Que je demeure fidèle à tes commandements, ça c'est une référence à Jean chapitre 15 verset 10, que jamais je ne sois séparé de toi. Voilà, je vais communier pour vivre tout ça, ne pas être séparé de toi, être fidèle à tes commandements. Et puis alors la deuxième parole du prêtre, il peut dire au choix, Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Donc là, c'est une référence à 1 Corinthiens 11, 27. Donc vous verrez, en fait, Saint Paul dit qu'on peut communier et mal communier. Je cite, « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. C'est pour ça que, oui, si je communie, je dois m'éprouver moi-même, et vérifier que je discerne bien le corps, que je suis bien d'accord avec ce qui est présenté. Alors, les pères de l'Église vont beaucoup paraphraser et commenter cette phrase de saint Paul. Alors, je cite saint Justin. Il n'est permis à personne de participer à l'Eucharistie s'il ne croit pas à la vérité de ce que nous enseignons, s'il n'a pas été lavé dans le bain en vue de la rémission des péchés, et de la régénération, ça veut dire s'il n'a pas été baptisé, et s'il ne vit pas suivant les enseignements du Christ. Et quelqu'un qui, par exemple, ne vivrait pas les enseignements du Christ, il ne peut pas communier. Voilà. Saint Jean Chrysostome commente, si nous ne participons pas à un repas... Saint Jean Chrysostome, il prend l'image de la fièvre. Bon. Si nous ne participons pas à un repas matériel quand nous avons la fièvre, pour ne pas perdre la vie, combien plus ne devons-nous pas toucher à cette table sacrée avec des désirs pires que les fièvres? Bon. Saint Grégoire de Nice. Il nous faut veiller, nous aussi, lorsque nous recevons le don de ce corps, à ne pas l'envelopper du linceul souillé de la conscience, ni à le placer dans le tombeau du cœur avec l'odeur des os morts et de toute espèce de putréfaction. Alors, Saint Jean Chrysostome, il revient aussi sur cette question. Alors, je cite. « Chassons donc sans distinction de personne, » il est un peu sévère, hein, « tous ceux que nous verrons indignes de s'approcher de la table. Elle est corps du Christ, aussi cette assemblée. » Oui, certains pères de l'Église, par exemple, disaient « que chacun s'éprouve s'il ne discerne le corps. » Donc il disait, en fait, il y en a, ils discernent le corps là, sur l'autel, mais pas dans l'assemblée. S'ils ne reconnaissent pas que dans l'assemblée, ce sont des frères, s'ils ne discernent pas le corps du Christ dans l'Église, eh bien qu'ils ne communient pas la tête, s'ils ne veulent pas communier aux membres. Si tu n'es pas capable, si tu ne veux pas demander pardon à ton frère, hein, quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier à ton frère. Eh bien, ne t'approche pas de l'autel, si tu n'as pas discerné le corps. Donc, Saint Jean Chrysostome continue, « Elle est le corps du Christ aussi, cette assemblée. C'est pourquoi, vous les prêtres qui avez charge de dispenser les mystères, n'irritez pas le Seigneur en manquant à purifier ce corps, et ne présentez pas une épée au lieu d'une nourriture. Si donc l'un de ces gens a perdu le sens au point de s'approcher de la table, rejetez-le hardiment. » Craignez Dieu et non pas l'homme. Si vous n'osez pas les chasser, dites-le moi, parce que c'est l'évêque, et je ne tolérerai pas qu'il s'en approche. Je perdrai plutôt ma vie que de donner le corps du Seigneur à celui qui en est indigne. Et je souffrirai plutôt que l'on répande mon sang plutôt que de présenter un sang si vénérable à celui qui n'est pas en état de le recevoir. Je ne parle ici que des personnes que vous connaissez. Car si vous laissez s'approcher un être indigne parce que vous ne le connaissez pas, ce n'est plus de votre faute. Je parle de ceux que l'on connaît publiquement. Je dis ceci, mes frères, non afin que nous nous bornions à repousser des gens, à les retrancher, mais afin de les ramener après les avoir corrigés et d'en prendre un soin particulier. Ben voilà. Alors, vous avez compris le truc, hein. Donc, ça veut dire, voyez, quand Saint Justin dit que, voilà, celui qui s'approche, il doit vivre suivant les enseignements du Seigneur, etc. Donc, de temps en temps, on rappelle à la messe, alors on essaie de le faire avec une voix douce. Je vous rappelle, frères et sœurs, qu'il est important d'avoir reçu le sacrement du pardon avant de communier, d'une manière pas trop lointaine. Alors, pas trop lointaine, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, bon. Faudrait dire au moins une fois l'an, de manière obligatoire. On pourrait rajouter de vivre conformément aux enseignements du Seigneur. Donc ça touche à, alors, par exemple, tous ceux qui sont en concubinage. Donc tous les jeunes fiancés qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils restent d'abord chacun dans leur maison avant de se marier, ne peuvent pas s'approcher. Les jeunes, vous voyez, des bonnes familles qui ont oublié certaines choses. Ça va toucher les divorcés mariés, etc. Mais on peut pas le dire comme ça, parce que sinon les gens, ils, je sais pas quoi. Hein? Bah pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Bon, et puis alors, en fait, il n'y a pas que la question du mariage, ça, parce que vous avez d'autres péchés qui font qu'on ne peut pas s'approcher. Le pardon que j'ai pas voulu donner, je resterai et je pardonnerai jamais, fait que tu ne peux pas t'approcher non plus. C'est-à-dire toute situation, tout péché grave installé, où j'ai dit, je serai dans ce péché, et moi, vous savez, je m'accommode, et j'ai décidé que ça ne serait plus un péché. La gravité, c'est pas tellement de péché, c'est pas grave, là. Ce qui est grave, c'est de penser de telle manière que ce que je fais, je le pense comme n'étant plus un péché. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'obscurcissement de l'intelligence, où j'ai décidé que non, finalement, fallait vivre de telle manière parce que c'était comme ça que tout le monde vivait, que les temps ont changé maintenant, mon père. Donc vous pouvez plus nous refuser la communion parce qu'on vit comme ça. Donc voilà. Donc, voyez, tout péché grave, tout péché mortel ne me permet pas de participer à l'Eucharistie, enfin de communier, je veux dire, de participer à l'Eucharistie, oui. Je rappelle aussi que je communie car j'ai participé à la messe. Je cite Sacramentum Caritatis du pape Benoît XVI au numéro 55. Sans aucun doute, la pleine participation à l'Eucharistie se réalise quand on s'approche aussi personnellement de l'autel pour recevoir la communion. Toutefois, on doit veiller à ce que cette juste affirmation n'introduise pas parmi les fidèles un certain automatisme, comme si par le seul fait de se trouver dans une église durant la liturgie, on avait le droit, ou peut-être même le devoir, de s'approcher de la table eucharistique. Ça, je l'ai vu beaucoup à Paris. Parce que les gens, ils rentrent dans l'église, hop, tiens, la messe est en train d'être célébrée. Oh, ben tiens, je vais aller communier. Puis les gens sont en train de s'avancer et communient. Et Benoît XVI, il dit non, non, c'est pas parce qu'on est en train de faire qu'il faut communier. Il faut que vous participiez à l'Eucharistie, que vous ayez au moins entendu les lectures. Parce qu'un sacrement, c'est des lectures, c'est des paroles et un geste. Hein. Donc, parole, c'est les lectures et le geste, voilà. Voilà. Alors, il y a un beau texte que je ne vous ai pas mis, et puis je suis vraiment sur la fin. Le texte d'Adrienne von Speer, où elle commente Jean 13, 27. Si vous le voulez, je vous donnerai par internet ce texte. Jean 13, 27, c'est « Après la bouchée, alors Satan entra en lui. » Ça vous dit quelque chose? Judas communie, et on nous dit « À ce moment-là, Satan entra en lui. » Bon, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais... Alors, elle commente comme ça. Que Satan entre en lui après la bouchée est la conséquence de ce qu'il a reçu indignement la communion. Indignement parce que Judas s'est fait laver les pieds sans avoir renoncé à son projet de trahison. La trahison en lui prend le dessus, tandis qu'extérieurement, il semble se soumettre. Il se laisse nourrir par celui qu'il a la ferme intention de trahir. Le fait qu'il n'a pas la foi et que malgré cela il se comporte extérieurement comme s'il la possédait, ouvre la voie à Satan. Une communion est une profession de foi. La trahison consiste dans le fait qu'un individu accepte le pain du Seigneur tout en sachant qu'il ne veut rien recevoir de lui. Tout serait différent si son âme était en lutte ou s'il avait des doutes, mais il communie dans le refus net. Il serait moins grave de refuser le Seigneur en ne le recevant pas. Le pire, c'est de le refuser en le recevant. Bon, c'est un très beau texte que je mettrai dans le polycopier quand le cours sur la messe sera sur Internet. Donc dans 2 mois, tout le cours et les polycopiers seront sur Internet. Voilà. Donc ensuite, dernière étape, voici l'agneau de Dieu. Donc, après cette prière à voix basse, que le prêtre va dire en se rappelant qu'il ne doit pas communier de manière indigne, hein, que cette communion n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps, à ce moment-là, eh bien... il présente à l'Assemblée l'agneau de Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme cette réponse à la question d'Isaac. Rappelez-vous, Isaac et Abraham, Abraham montant sur la montagne, obéissant à la demande de Dieu qui lui dit de faire un sacrifice sur la montagne. Abraham comprend que le sacrifice suppose qu'il prenne son fils, parce que c'est la mentalité de l'époque. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu voulait? Je suis pas trop sûr. Bon, je suis pas sûr que Dieu veut qu'on immole des enfants. Bon, bref. En tout cas, c'est comme ça que Abraham le comprend. Et alors, Isaac pose la question. Papa, papa, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et voilà que Jean-Baptiste, plus de 2000 ans après, oui, répond à la question d'Isaac. Quand il voit Jésus passer au bord de la mer, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. En voyant cet homme assez fort, parce que Jésus, si on regarde le sanctuaire, apparemment était un bel homme assez fort. En fait, celui que vous voyez comme le fort, il est celui qui est tout petit. Il est celui qui est l'agneau, qui est immolé et vivant. Il est les deux à la fois. Et alors, voici l'agneau de Dieu, voici qui est celui qui est offert en sacrifice. Heureux les invités au repas du Seigneur. La traduction littérale, en fait, je pense que dans le nouveau missel, ça sera traduit correctement. C'est « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Ça reprend une parole de l'Apocalypse au chapitre 19, versets 7 et 9. Je cite « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. » Puis il me dit, écrit, heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Donc je comprends à ce moment-là que ce que nous vivons, ce sont des noces. Je l'avais déjà compris au début de la messe, bien sûr, j'en ai déjà parlé, cette histoire des noces, de ce baiser de l'autel, vous reprendrez les premières séances. Mais quand j'entends « heureux les invités au festin des noces de l'agneau », le mot « invité » n'est pas très adapté, puisque je ne suis pas invité, je suis l'épouse. Il est important de garder le mot « invité », c'est le mot de l'Apocalypse, hein. Donc c'est le mot que nous avons dans l'Écriture, il n'y a pas à le changer, il est très bien traduit, c'est pas un problème. Mais quand Jésus me parle que moi je suis invité, il faut que je traduise dans mon cœur que je suis l'épouse, puisqu'on parle de noces. C'est les noces de l'agneau, donc c'est les noces entre le Christ et son épouse qui est l'Église. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'invité. Il n'y a qu'une épouse face à son époux. Et l'époux et l'épouse vont recevoir le corps l'un de l'autre dans cette étreinte mutuelle. Seigneur, tu ne m'appelles plus à être à côté de toi, tu m'appelles à être en toi, à vivre ce mystère d'épousailles. Et je réponds, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, je ne suis pas digne comme Isaïe, dans le Temple, au chapitre 6. Voyant la bonté de Dieu, la présence de Dieu, dit « Je suis un homme aux lèvres impures », comme on l'a dit au début de la messe, hein, comme nous le disons à chaque instant, comme nous le dirons au soir de notre vie, « Je ne peux pas rentrer, je suis indigne ». Mais dis seulement une parole, et cette parole, c'est quoi? C'est son Fils. En fait, Dieu n'a qu'une parole. C'est son Fils, mort et ressuscité. La seule parole, je l'ai déjà dite, c'est mon Fils que j'ai offert en sacrifice. Il est ma parole, il est le Verbe. Il est celui qui te permet d'entrer dans la salle de noces et de vivre cette étreinte. Donc, voilà, tu ne peux rien recevoir par tes propres actions. Et c'est ça, voyez, cette parole du centurion. En fait, dans notre vie, nous avons ce passage, j'ai envie de dire, de la parole de Zachée à la parole du centurion. Zachée, c'est celui qui reçoit chez lui le Seigneur. Hein, vous vous souvenez, un petit peu comme nous, quand nous communions, nous recevons le Seigneur. Et qui dit, Seigneur, je te reçois et moi je vais réparer. Ceux que j'ai volés, je vais leur donner le quadruple, pas quoi, et puis etc. Et puis je vais remettre ma vie en ordre, etc. par mes propres forces. C'est bien ça, c'est une première étape dans la vie. Dans la vie, nous remettons notre vie en ordre par nos propres forces. Mais à un moment donné, il faut passer de la parole de Zachée à la parole du centurion. Au soir de notre vie, nous disons au Seigneur, écoute Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Ma vie, j'ai essayé de la mettre en ordre comme j'ai pu, j'y suis arrivé comme j'ai pu. Mon héritage, je ne sais pas quoi, je ne l'ai pas donné à l'heure de ma mort, je l'ai donné un peu avant. pour que ce soit un vrai acte libre, pour qu'on ne prenne pas les choses, mais que je les donne. J'ai demandé pardon à celui que j'avais, j'avais spolié, que j'avais, dans l'entreprise, que j'avais, avec qui j'ai abusé, j'ai mis ma vie en ordre comme j'ai pu un peu, mais en fait, même tous ces actes, j'ai fait des actes de charité, je me suis occupé de la kermesse de la paroisse, j'ai compté les sous, je me suis occupé des fleurs, tout ça, bon. J'ai fait comme j'ai pu pour dire cet amour que j'ai pour toi. Mais tout ça, toutes ces œuvres, en fait, ne sont pas grand-chose par rapport à cet immense amour que tu me donnes. Et je me rends compte que toutes ces œuvres ne peuvent pas acheter ton amour. Et donc, Seigneur, je te dis au soir de ma vie, je ne suis plus haché, mais je suis le centurion. Seigneur, dis une seule parole, dis un seul acte, et je serai guéri, et je serai pardonné, et je pourrai communier avec toi pour l'éternité. Amen.